voisin, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Sandrine Mercier.
Bonjour les voisins, les voisines, je suis ravie de vous retrouver sur RFI. Hier, c'était la deuxième journée de lutte contre le harcèlement scolaire. Savez-vous que le harcèlement peut commencer dès l'école primaire et près d'un enfant sur dix avoue être victime de violences physiques et verbales répétées. Mais souvent, ils n'osent pas en parler alors que dans la moitié des cas, les élèves harcelés disent avoir des idées suicidaires. Mon enfant est harcelé, que faire? C'est bien la question qui taraude les parents. Mais c'est aussi un souci quand mon enfant est le harceleur. Alors à partir de quel moment peut-on parler de harcèlement à l'école? Comment aborder le sujet avec son enfant? Comment savoir s'il est harcelé? Et quelles sont les répercussions sur la vie? À qui faut-il en parler aussi d'abord en premier? Et changer d'école, est-ce la solution? Alors pour en débattre aujourd'hui, trois personnes, trois femmes d'ailleurs. Je vais commencer avec vous, Noémie Agroin. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez été victime de harcèlement scolaire. C'était pendant les quatre années de collège, hein, quand même, que ça a duré. Et vous publiez De la rage dans mon cartable, livre de poche jeunesse. Et vous avez également créé l'association Génération Solidaire pour, maintenant, vous faites de la prévention. C'est votre objectif. Et il y a ce livre, donc ce livre témoignage. Pour vous, c'était une manière de, un pas de plus dans le chemin pour vous en sortir?
Oui, tout à fait. Et puis c'était surtout dans le but d'essayer de faire en sorte que d'autres ne passent pas par là où j'étais moi-même passée. Donc, je m'en suis sortie de cette situation et aujourd'hui, je veux justement faire tout pour que d'autres ne passent pas par là, par ce silence et par tout ce que ça implique par la suite.
Et vous avez aujourd'hui 26 ans.
Tout à fait.
Donc, vous allez nous raconter un peu tout ce que vous avez traversé et comment vous vous en êtes sortie. Avec nous également Marie-Jeanne Trouchot. Bonjour.
Bonjour. Bonjour
Marie-Jeanne, vous êtes thérapeute, auteur de La violence à l'école aux éditions Erol. Alors pourquoi et comment l'école est source de violence? C'est vrai que c'est un lieu où on devrait apprendre dans la joie et la bonne humeur. Et en fait, il y a de la violence. Comment ça, pourquoi dans ce lieu-là?
Certainement par les conditions mêmes de l'école, par des programmes, par le groupe qui est difficile à gérer, par la pression qui existe aussi sur les professeurs, et puis quelquefois aussi par la pression que mettent les parents sur l'enfant. Tout ça fait un bouillonnement de difficultés.
Dans lequel peut émerger cette forme
de
violence.
Dans lequel peut émerger la violence. Oui. Et effectivement, un enfant qui n'a pas confiance en lui va chercher à dominer et peut devenir harceleur. Un enfant qui n'a pas confiance en lui peut être démuni et ne plus savoir quoi faire. Et ça devient des situations absolument dramatiques. Et je crois que c'est indispensable d'en parler beaucoup.
Et c'est pour ça que nous en parlons aujourd'hui, effectivement, délier toutes ces langues. Géraldine Habard, c'est ce que vous faites aussi. Vous êtes secrétaire de l'association Les Parents,
oui.
Membre du collectif You Are Heroes. Et cet engagement, donc, on peut dire qu'il est né parce qu'au départ, votre fille a été victime de harcèlement. Ça s'est poursuivi aussi en cyberharcèlement dans le cadre, donc, de quand elle sortait de l'école, ça continuait. Et vous avez trouvé des réponses, on peut dire ça, dans les associations?
Oui, j'ai trouvé du soutien. Oui. J'ai tendance à dire qu'effectivement, si le harcèlement scolaire est un drame qui détruit non seulement la victime, mais aussi la famille, il y a une solidarité entre toutes les personnes qui luttent au quotidien sur le terrain ou qui sont concernées par le phénomène du harcèlement scolaire qui aide à tenir et à continuer et à avancer et qui nous donne de l'espoir qu'un jour, notre enfant qui est victime s'en sortira et aura une vie normale.
Donc là, votre fille est rentrée à l'école, c'était hier, hein, jeudi, et la rentrée a été comment?
Chaque reprise encore est compliquée. C'est des angoisses, la peur d'y aller, un manque de confiance en elle, toujours, et la peur du regard des autres.
Alors, on va en parler, donc on a du moment pour s'exprimer. Les voisins, les voisines, vous pouvez aussi poser vos questions sur le harcèlement scolaire. Appelez-nous au 33 1 84 22 71 71 ou échangez sur Facebook. Alors, on a beaucoup de témoignages sur Facebook. Effectivement, c'est presque un phénomène, on peut le dire, mondial. Ça se passe partout maintenant. Il y a Lassana à Bamako qui remarque à quel point ce phénomène est courant aussi maintenant au Mali. Abel à Douala nous dit « Quand j'étais à l'école primaire, je ne mangeais pas à ma faim. Alors que mes parents me préparaient des super goûters, je devais toujours les donner à mes camarades car ils me menaçaient de me couper la main si je ne leur donnais pas. Et du coup, je craignais d'être manchot. » J'ai encore envie de vous donner le témoignage de Jacob à Cotonou qui dit avoir été victime de harcèlement scolaire en CM2. J'étais un élève brillant et mes camarades qui n'avaient pas le même niveau m'attendaient à la sortie de l'école et se réunissaient pour me taper. Ils déchiraient mes cahiers, mes bonnes notes et j'ai dû partager cette situation avec ma mère qui a pris rendez-vous avec les parents des harceleurs et aussi avec mon enseignant. Et heureusement, ils ont cessé, donc ça a duré une année. J'ai encore envie de vous donner le témoignage d'Ibrahim de Niamey. J'ai été victime de harcèlement à l'école primaire. Les gens de ma classe, beaucoup plus forts que moi, en profitaient et me faisaient faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, c'est ma nièce qui subit cette situation et elle est obligée de rentrer à la maison aux heures de pause pour déjeuner et fuir les violences dont elle est victime. Alors, merci pour tous vos témoignages, les voisins, les voisines, sur Facebook. Appelez-nous pendant l'émission si vous avez des questions pour nos invités au 33 1 84 22 61. 71.
L'important, c'est de se soutenir, vous le dire. Malgré les coups, les difficultés, les chances. Quoi qu'il reste à venir, mon espérance, vous le dire. Soutenir, se soutenir. Exigu ce sentiment, c'est continu. Il me fait mal et assidu. Ce malheur bien là dans ma tête, c'est déconvenu. Je voudrais en sortir, c'est sûr. Il n'est pas que du vécu. Et si à l'heure où j'en parle, c'est comme du temps perdu, surplus. Oui, quoi faire de ce qui nous a déçus, déplus. Et même quand je me sens enfermé par la peine, j'en arpente les ruelles, c'est le convit de la haine. Car elle aime me soutenir, vous le dire. Malgré les coups, les difficultés, les chances, quoi qu'il reste à venir, mon espérance, vous le dire. Soutenir, se soutenir, jusqu'à ce que vous n'ayez plus que mes plus beaux souvenirs.
Souvenirs. C'est un jour je me sens triste et paumée. Dis-toi que je suis juste revenue à l'essentiel. Le temps d'une pause, elle, cette vie de souffrance à haute dose. Leurs conséquences et leurs causes, jusqu'à changer mes mots en autre chose. Besoin d'aimer, d'être rêvé les yeux ouverts. Marre de l'irrespect, besoin de repères. Quand cessera-t-on de me regarder ailleurs qu'à terre?
Car l'important, c'est de se soutenir. Vous le dire, malgré les coups, les difficultés, les chances. Quoi qu'il reste à venir, mon espérance, vous le dire. Soutenir jusqu'à ce que vous n'ayez plus que mes plus beaux souvenirs. Souvenir, se soutenir, vous le dire, malgré les coups, les difficultés.
Extrait du clip Aimer se souvenir autour du harcèlement scolaire. C'est donc été mis en chanson par des jeunes. Géraldine Habar, vous êtes secrétaire de l'association des parents. Donc, ça, c'était une façon de parler aux plus jeunes en employant leur musique pour les toucher.
Alors en fait, ça fait partie des outils qu'on a mis en place au sein de l'association Les Parents et du collectif You Are Heroes, qui s'appelle Les Rencontres des Héros, et qui a pour objectif de permettre aux victimes et aux anciennes victimes de harcèlement scolaire de se reconstruire petit à petit, de reprendre confiance en elles à travers leurs passions, que ce soit les arts, le sport, et là en l'occurrence la chanson. Cette chanson donc, qui s'appelle Aimer se soutenir est issue de la première rencontre des héros et a été enregistrée avec ma fille et Willy Pierre, le président de l'association.
Alors les jeunes ont vulgarisé quand même ce terme de harceler. Souvent on peut les entendre dire arrête de me harceler ou ce mec me harcèle juste pour dire qu'il m'embête. C'est vrai que c'est un mot qui vraiment maintenant est très divulgué dans la société. À partir de quand on peut vraiment parler de harcèlement scolaire, Marie-Jeanne Trouchot?
On parle de harcèlement scolaire dès très peu de choses. Ça peut être une boulette de papier lancée sur la tête tous les jours. Ça peut être une remarque, ça peut être une exclusion laissée à part dans la cour. C'est déjà une manière de harceler.
Il faut que ça vienne régulièrement. Il y a cette idée.
Voilà. Il y a toujours eu des bagarres entre enfants,
des moqueries,
des disputes, des moqueries, etc. Mais ce qui est plus prégnant aujourd'hui, c'est justement la récurrence et le choix d'un enfant qui devient la cible d'un groupe. Et quelquefois, alors je n'accuse pas les professeurs, mais parfois, le corps enseignant peut être aussi complice, parce que on va critiquer aussi cet enfant qui s'enferme, qui ne travaille plus, qui a de moins bonnes notes parce qu'il ne peut plus se concentrer, etc. Donc le harcèlement, c'est une espèce de boule de neige, mais qui commence avec très peu de choses, et c'est ça, ce très peu de choses, qu'il faut être très attentif.
Alors vous l'avez connu, hein, ce harcèlement, Noémia Grouane, 4 ans de collège, vous êtes dans le sud de la France. À partir de quand vous avez posé ce mot sur ce qui vous arrivait ?
Pas du tout pendant les 4 années de harcèlement, justement, parce qu'à l'époque, on n'en parlait pas du tout. Enfin, c'est vraiment très récent, ce terme harcèlement scolaire, justement. C'est vraiment depuis les premières assises nationales contre le harcèlement qui ont eu lieu, qu'on a posé un terme dessus, mais avant, on n'en parlait pas du tout. Et donc moi, quand j'étais au collège, et donc pendant 4 ans, j'ai subi des situations de harcèlement, à la fois moral, mais aussi à un moment donné, même physique. Heureusement pas de cyberharcèlement, parce que c'était pas encore développé à l'époque.
Mais comment ça s'est mis en place au collège ? Comment vous êtes devenue la cible
de la
classe ?
Dès la rentrée en sixième, très peu de temps après la rentrée, à peu près une semaine, 10 jours après la rentrée des classes, je me suis retrouvée dans une classe où je n'avais pas d'anciens camarades de l'école primaire. Donc je me suis retrouvée dans un contexte inconnu. Et très rapidement... deux filles ont commencé à m'agresser moralement, donc par des insultes, notamment ça a commencé par un surnom dévalorisant en lien avec mon physique, parce que quelques années auparavant, j'avais eu un accident de voiture à l'âge de 7 ans et qui m'avait laissé comme seule séquelle en fait une légère déviation de la mâchoire. Et donc, c'est parti de ce surnom, c'est parti ensuite d'insultes, de moqueries.
Donc, c'était un nom de Gremlins, voilà, c'est ça, il vous appelait Gizmo.
Gizmo, voilà, exactement. Voilà, ça a commencé comme ça, et c'était aussi des insultes, des moqueries sur ma manière de m'habiller, parce que moi, j'étais pas dans le moule, c'est-à-dire que je portais pas des vêtements de marque à la mode, parce que pour moi, c'était pas ça qui était important.
C'était plutôt garçon manqué, quoi, avec assez des pantalons, manqué, jouer au voilà, foot.
Voilà, exactement, et du coup, très rapidement, cette situation de harcèlement s'est mise en place, puisque ça a commencé avec ces deux meneuses, et très rapidement, d'autres élèves de la classe ont également commencé à participer à ce phénomène de harcèlement. Très vite, ça a pris de l'ampleur. C'est ce qui se passe souvent dans des situations de harcèlement comme
et
ça.
Et comment vous réagissiez ?
Alors, j'ai essayé différentes stratégies face à ces situations. La première chose que j'ai faite, c'était d'ignorer. Au départ, je me suis dit, si je fais comme si ça ne me touche pas, à un moment donné, les autres vont se lasser et ils vont finir par s'arrêter. Sauf que malheureusement, plus je me taisais, plus les autres continuaient de titiller. Et donc, j'ai commencé à réagir, donc à répondre aux insultes, comme les autres, en fait, à mettre sur le même niveau.
C'est-à-dire sur le mode agressif, là.
Voilà, voilà, exactement, à réagir. Sauf que là, encore une fois, ça n'a pas été efficace, dans le sens où même quand je répliquais, les autres arrivaient toujours à avoir le dessus sur moi, parce que moi, la particularité, c'est que j'avais pas de violence en moi, j'avais pas de méchanceté, et je comprenais pas cette violence, qui était à ce moment-là une violence purement gratuite, et donc je ne savais pas comment réagir face à cette situation.
Et ce qu'on comprend dans votre livre, c'est qu'en fait, vous vous mettez à tout accepter, parce que vous avez peur des représailles.
Oui, tout à fait. Et puis, très rapidement, on peut se retrouver dans une spirale infernale parce qu'au final, au départ, à la base, bien sûr, on est victime, 100% victime de cette situation. Mais le problème, c'est qu'à un moment donné, j'ai commencé à me sentir coupable, à me sentir honteuse parce que autour de moi, personne ne réagissait, que ce soit les autres élèves, les témoins ou les adultes qui parfois voyaient quand même certaines situations. Aucun, pendant 4 ans, n'a jamais réagi par rapport à ce que je subissais. Et donc, j'ai pensé à un moment donné que c'était tout simplement normal et que c'est moi qui étais responsable.
Et du coup, quelles conséquences ça a eu sur votre vie à l'école, par exemple, ou dans la famille ?
Ça a eu un certain nombre de conséquences. Donc sur le court terme, au moment des faits, ça a eu comme effet que je me suis retrouvée complètement en situation d'échec scolaire. Alors que j'avais 17 de moyenne en primaire, je me suis retrouvée avec moins de 10 au collège, avertissement travail pendant mes 4 années de collège parce que j'arrivais plus du tout à me concentrer. Et au-delà de ça, un mal-être qui s'installe au fil du temps et très rapidement, ce qu'on retrouve systématiquement dans ce phénomène de harcèlement, très rapidement une perte totale de confiance en moi.
Une forme de dépression. Oui. Et ça toucherait donc un élève sur 10 en France, hein, ce processus de mise à l'écart à partir donc d'une particularité. Alors là, on va entendre une vidéo et on va entendre des jeunes qui ont gagné le prix de la meilleure vidéo dans le cadre de la campagne nationale Non au harcèlement. C'était en 2016. Ils sont une dizaine d'élèves d'un collège de Clichy en banlieue parisienne. Ils sont en classe de 6e et de 5e. Et donc, pendant plusieurs mois, ils ont planché avec leur professeur de français sur le harcèlement scolaire et ils ont réfléchi à le mettre en image. Et Charlie Dupiau a rencontré ses apprentis comédiens, désormais très sensibles sur cette question, mais d'abord, on écoute un extrait de la vidéo.
J'avais dit, quand ton bonnet est orange, t'en changes. Mais quelqu'un a été poster ça sur son mur à lui.
Je me suis fait coller parce que je lui avais pris son bonnet. Je l'ai passé à un autre, qu'il a passé à un autre, et quand quelqu'un lui a rendu, il pleurait. Si je pleure un jour comme ça en public, non mais c'est ridicule.
Les élèves qui se moquent sont des idiots. Une fois, on s'est moqué de moi parce que j'avais bégayé. Enfin, plusieurs fois en fait. Du coup, je fais attention quand je parle, ou je parle pas.
Racontez-moi un peu l'histoire de cette vidéo.
L'histoire de la vidéo, c'est qu'un garçon vient avec un bonnet orange à l'école, et puis les autres se moquent de lui parce que son bonnet est orange, en fait.
Cette histoire, en fait, elle a déjà été faite, puisque c'était quelqu'un qui avait un bonnet, et des personnes se sont déjà moquées de cette personne.
C'est une vraie histoire.
Voilà, et on s'est inspiré de cette histoire, on a essayé de faire des commentaires gentils, mais aussi de moqueries, pour que ça résume un peu l'histoire. On a tous en fait pris chacune de nos idées, puis on les a assemblées, puis après on a fait des textes.
Alors toi, on te voit à l'image, tu joues un peu en fait la suiveuse dans la vidéo, c'est-à-dire celle qui suit la meute qui va harceler l'élève.
J'avais dit des choses assez méchantes, j'avais dit que un bonnet orange c'est pas possible, c'est trop moche, et que si j'avais ça, j'aurais vraiment honte.
Pourquoi est-ce que tu penses qu'on va harceler quelqu'un ?
Les gens qui harcèlent, soit c'est leur façon de rigoler, soit c'est parce qu'ils ont un peu de la haine en eux, ou du genre ils se sentent mal, donc ils essayent de se rendre mieux en se moquant des autres. Et puis les gens qui suivent, c'est ceux qui ont peur de se faire harceler, donc ils disent « oui, t'as raison, c'est vrai, il est moche », et tout.
Et toi, ça t'inspire quoi, ça ? Est-ce qu'on a pu se moquer de toi ?
Bah oui, un petit peu au début de l'année. J'étais en 6e. C'était plus sur mon physique, en fait, qu'elle se moquait de moi. T'es moche, dégage, des trucs comme ça. Il y avait une des filles qui était dans ma classe aussi. Quand elles allaient me voir, elles me faisaient tomber mon sac ou des choses comme ça. Des fois, quand elles passaient devant moi, elles me faisaient tomber ma trousse.
Qu'est-ce que tu répondais à ce qu'elles te disaient ?
Bon, en général, je répondais rien, je partais. Mais ça a duré pas très longtemps. Un mois, deux mois.
Et tu dirais que c'est ça, du harcèlement ?
Pas tellement, parce que là c'était juste un petit groupe de filles et puis je pense pas que c'était très sérieux.
Elles étaient combien ?
3, puis que j'étais pas toute seule.
Tu avais des amis ?
Oui, beaucoup. C'était juste les 3 qui me faisaient ça. Au début ça me faisait rien, mais au bout d'un moment ça devient blessant. Et puis on se pose des questions. Je me suis demandé pourquoi elles me faisaient ça, si c'était la vérité.
Et tu en as parlé à quelqu'un ?
Bah j'avais peur en fait que mes parents y réagissent mal. Que, par exemple, ils me disent que je sais pas me défendre. J'avais honte, en fait. Parce que moi, je me disais que si j'avais ça, c'est que j'étais un peu nulle. Mais heureusement que ça s'est arrangé après.
Comment ça s'est arrangé ?
En fait, du coup, elles sont venues me voir. Je sais pas comment elles se sont dit ça. Quand elles sont venues me voir, elles se sont excusées. Elles m'ont dit que c'était bête ce qu'elles avaient fait. Et puis que j'avais l'air sympa.
Et elles t'ont expliqué pourquoi elles avaient fait ça ?
Non, toujours pas. C'est passé, maintenant on est amis et du coup je me dis que c'est pas très grave. C'est fini en fait.
À la toute fin de cette vidéo, donc réalisée par des élèves du collège Jean Jaurès à Clichy, on lit « La honte, c'est de ne rien faire contre le harcèlement ». Alors vous militez aussi en tant que parent, hein, Géraldine Habard, dans l'association donc Les Parents, pour parler de ce phénomène. Comment vous avez appris le harcèlement de votre fille ?
Alors ça a été en deux temps. Puisque son harcèlement a commencé dès son entrée en 6e par des mots anonymes, où là, effectivement, elle m'a montré un mot juste avant les vacances de la Toussaint, qui était une moquerie sur son physique. Après les vacances de la Toussaint, les mots anonymes se sont répétés plusieurs fois par jour, d'insultes, jusqu'à ce qu'elle ait reçu une menace qui disait « fais gaffe à toi ». Donc j'ai alerté la proviseure qui a mené sa petite enquête, on va dire, qui au bout de 15 jours, ne comprenant pas pourquoi ça continuait à accuser ma fille de s'écrire elle-même des mots. Voilà. Suite à ça, après, le harcèlement s'est transformé en cyberharcèlement sur un réseau social bien particulier qui est Snapchat.
Alors, on va continuer effectivement d'écouter votre témoignage après le flash. Comment vous avez agi pour lui sauver la vie, comment vous avez réagi assez vite. Quelles sont les solutions qui portent leurs fruits et comment vous avez décidé de changer d'école. Comment réagir donc en cas de harcèlement? Les voisins, les voisines, on attend vos témoignages au 33 1 84 22 71 71. On se retrouve dans 3 minutes avec vous, Noémia Grouin de La Rage dans mon cartable, Marie-Jeanne Trouchot, thérapeute, et vous, Géraldine Habard. À tout à l'heure.
Carrefour. 7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue à vous les voisins, les voisines qui nous rejoignez. Et comme c'est vendredi, un sujet éducation, et comme hier c'était la journée pour dire non au harcèlement, on en profite pour sortir du silence ces violences à l'école. C'est un phénomène répandu aujourd'hui. Près d'un enfant sur 10 affirme être, dès l'école primaire, victime de harcèlement physique ou moral de la part de ses camarades. Et face à ce type de situation, il est parfois difficile en tant que parent de savoir comment réagir. On se sent bien démuni. Mais comment gérer cette violence? Qu'en est-il des autres enfants aussi qui assistent à ces scènes agressives? Quelles sont les méthodes qui portent leurs fruits? On en parle aujourd'hui avec Noémia Grouin. Vous avez été victime de harcèlement scolaire et vous publiez De la rage dans mon cartable, livre de poche jeunesse. Et vous avez créé l'association Génération Solidaire, donc pour faire de la prévention. Également avec nous Géraldine Habard, secrétaire de l'association Les Parents, membre du collectif You Are Heroes. Et votre fille, vous nous racontiez, donc, a été victime de harcèlement et de cyberharcèlement. Et Marie-Jeanne Trouchot, donc thérapeute, auteure de La violence à l'école aux éditions Erol. Alors, on le voit, malheureusement, tous ces faits divers, de plus en plus nombreux, horribles aussi, avec ces attaques dans la cour, les bagarres qui tournent mal. Ça va jusqu'au suicide, dans quelques cas. Alors que l'école devrait être au départ un lieu pour apprendre. Qu'est-ce qui fait que ça se transforme en ce bouillon chaudron, on va dire, un chaudron, effectivement, où toutes ces violences s'expriment. Marie-Jeanne Trouchot, moi, j'ai l'impression que moi, dans ma génération, on n'en parlait pas à l'école. Enfin, il n'y en avait pas non plus. Moi, je n'ai jamais vu ça. Aujourd'hui, on a l'impression que ça traverse absolument tous les établissements. Pourquoi cette généralisation?
Je crois qu'il est très important, et je m'applique beaucoup à en parler dans mon livre, de parler du couple harceleur-harcelé et de comprendre pourquoi il y a des harceleurs. Noémia disait tout à l'heure, en tant que victime évidemment, qu'elle avait ressenti de la haine chez ces harceleuses. Mais pourquoi existe la haine dans le cœur d'un enfant? Certainement parce que, ne pouvant pas construire, la seule possibilité qu'il a, c'est de détruire. Et qu'est-ce qui fait qu'il ne peut pas construire? Lui-même est déjà une victime. Et je crois qu'on résoudra les problèmes de violence par justement la bientraitance de tous les enfants et par la compréhension et la construction de la confiance en soi de tous les enfants.
Vous dites d'ailleurs qu'il faut respecter l'agresseur, Marie-Jeanne Trouchot.
Il faut respecter l'agresseur parce que amener de la violence sur de la violence, amener de l'humiliation sur de l'humiliation, ne sera jamais une solution. Alors que, justement, pouvoir voir, condamner complètement l'acte, mais aller chercher chez l'agresseur l'humanité qui existe, ou qui peut exister, c'est la seule solution pour sortir de quelque chose qui autrement ne sera qu'un quelque chose qui va s'amplifier et où on pourra sortir comment? Justement par la loi du plus fort. Alors ce sera encore la loi du plus fort et ce sera l'escalade. Donc je propose vraiment qu'on ne réponde pas en tant qu'adulte à la violence par de la violence ou à l'humiliation par de l'humiliation, mais justement par de la réflexion, par la possibilité d'amener le harceleur à comprendre ce qu'il fait. Et si on l'accuse entièrement, il est étiqueté comme étant violent. il n'a plus d'autre solution que de l'être.
D'autres voies d'issue, effectivement, pour exister. Alors, Géraldine Habard, donc, le problème aussi, c'est de communiquer, de parler de ce sujet avec son enfant. Votre fils est une ado. Ouais. Souvent, à cet âge-là, on a du mal à se confier aux parents. Alors, comment vous l'avez appris? Comment vous l'avez soutenu?
Alors, c'est sûr que la priorité, c'est de briser le silence pour que la victime ne se referme pas complètement sur soi. C'est déjà un premier pas en avant vers la guérison, d'en parler. Pour ce qui est de ma fille, en fait, on a déjà découvert le cyberharcèlement un peu par hasard. On communique beaucoup à la maison et j'ai senti simplement qu'elle n'était pas bien. Elle n'a pas voulu me répondre. J'ai posé la question à son petit frère tout simplement en disant « Elle n'a pas l'air d'aller, ta sœur ?» Il m'a dit « Il savait très bien, mais il m'a dit « Je ne sais pas, mais je crois que je l'ai vue pleurer. » Donc à partir de ce moment-là, j'ai insisté, je ne l'ai pas lâchée. Et elle avait eu la présence d'esprit de faire des captures d'écran de ce qu'elle avait reçu, enfin, ce qui avait circulé sur Snapchat en l'occurrence, qui étaient des hashtags « Je te hais » avec son prénom, que les 5 jeunes filles avaient mis sur leur profil de manière à ce que tous les élèves du collège puissent le voir.
Donc vous êtes tout à coup informée de ça, comment oui. vous réagissez?
On tombe des nues, on se prend une claque, pour être très clair. Et surtout quand on connaissait les jeunes filles, parce qu'il y avait sa meilleure amie qui venait régulièrement à la maison. Et c'est d'autant plus violent parce qu'elle savait frapper là où ça faisait mal, puisqu'elle connaissait tous ses secrets. On se sent complètement perdu et impuissant, et en particulier quand on informe l'établissement qui nous dit que c'est pas possible parce qu'elles sont pas dans la même classe, que de toute façon ça la concerne pas parce que c'est les réseaux sociaux, ce qui est faux, puisqu'à partir du moment où les élèves sont scolarisés dans l'établissement, ça la concerne. Et on est encore plus démunis au fur et à mesure parce qu'on l'a déscolarisée. Là, c'était vraiment.
C'était une question de survie.
De survie. Parce qu'on a découvert au fur et à mesure effectivement que elle se frappait la tête contre les murs, qu'elle se faisait vomir pour pas aller au collège, qu'elle était complètement détruite. Et cette destruction, elle est sur du long terme, puisque encore aujourd'hui, malgré que dans son nouvel établissement ça se passe bien, elle a été en dépression, elle a eu des violentes crises d'angoisse parce que elle croise ses anciens élèves, parce qu'il y a des rumeurs qui vont circuler entre les deux établissements, parce que voilà, donc c'est très compliqué, la reconstruction est très longue. C'est vrai qu'en tant que parent, on sent complètement impuissant face à la souffrance de son enfant.
Donc vous, très vite, vous avez décidé de changer, d'abord de la retirer de l'école,
oui.
Éviter tout lien toxique, parce qu'elle, de toute façon, elle ne le supportait plus. Enfin, elle était dans
elle
un
le
état
supportait
de souffrance
plus,
énorme.
Et il n'y avait aucune réaction au niveau de l'établissement.
Qui
et
ne faisait rien.
Rien.
Ouais. Alors, la réaction de l'établissement, c'est aussi dans votre cas, Noémie Agroin, la première fois que vous en parlez, en fait, il n'y a pas de personne ne bouge. Enfin, personne ne se soucie exactement de comment évoluent les choses pour vous.
Oui, effectivement. Enfin, c'est ressorti pendant ces 4 années de harcèlement une seule fois quand j'étais en 6e, donc ma première année de collège, quand ça a commencé. C'était ressorti parce qu'en fait, il m'arrivait de sécher les cours. Certains moments, justement, je prenais le bus le matin, mais je rentrais pas dans l'établissement. J'allais à côté au niveau du gymnase. Et donc, il y a eu un certain nombre d'absences injustifiées qui ont alerté, à un moment donné, la CPE, qui m'a convoquée avec ma mère. Et là, j'ai tout lâché. J'ai tout lâché, tout est sorti. Enfin, j'ai désigné les deux meneuses et puis cette situation de harcèlement qui avait pris de l'ampleur, même si je n'avais pas employé le terme harcèlement parce qu'on n'en parlait pas à l'époque. Et du coup, les deux filles ont été convoquées dans le bureau, ont été menacées de 2 heures de colle si ça recommençait. Bien entendu, 2 jours après, ça a repris de plus belle. Et,
il y en a même une des filles qui vous dit « Toi, t'es fini ».
Oui, c'est ce que vous... tout à fait.
Et donc il y a une escalade encore pire.
Il y a une escalade
la...
encore pire. Ouais. Et ce qui va se passer à ce moment-là, c'est que personne ne va assurer de suivi de cette situation.
Personne ne revient
cette CPE
vers vous
ne
au
va
niveau
jamais
de l'école
vers
pour
moi,
savoir comment ça
voilà.
va.
Ouais. Alors qu'il y a quand même un certain nombre de signes révélateurs, des absences répétées parce que je faisais semblant d'être malade justement pour ne pas aller au collège, des résultats scolaires qui étaient en baisse. Un comportement, quand même, quand j'étais au collège, j'étais renfermée sur moi-même, j'étais vraiment pas bien. À aucun moment, pendant 4 ans, ça ne va alerter, malheureusement, les adultes de l'établissement.
Est-ce que vous pensez que dans l'établissement scolaire, donc, les adultes font semblant de ne rien voir, Géraldine Habard ?
Pas nécessairement. Je pense qu'ils sont aussi beaucoup, en tout cas au niveau des surveillants, probablement débordés. Pour la majorité aussi, pas formés. Donc il y a un vrai manquement à ce niveau-là.
Personne ne sait voir ces violences,
Marie-Jeanne. Je pense que les adultes sont très démunis. Et ils ne savent pas quoi faire. Et je pense, Géraldine vient de parler de formation, je pense, c'est pour ça que je disais qu'il faut en parler, il faut donner aux adultes les moyens de réagir. Et justement, ce serait intéressant de provoquer beaucoup de réflexions, beaucoup de discussions par rapport au harceleur, justement. Pour moi, il faut lui dire, tu as fait ça, c'est détestable, c'est inadmissible et c'est interdit. Mais qu'est-ce qui a fait que toi, tu l'as fait ? Pour justement pouvoir faire prendre du recul. Parce que bien entendu, on s'occupe du harcelé, et je comprends, et c'est absolument indispensable, que le harcelé ne reste pas dans cette solitude infernale, et justement dans cette honte que décrivent tous les harcelés, parce qu'ils ont l'impression, tous, hein, Noémia le disait, ils ont l'impression que ça vient d'eux. Et ça, c'est terrible, parce que c'est injuste. Ils sont, Noémia le disait, 100% victimes et ils se sentent 100% coupables. C'est pas possible, quoi. Donc, effectivement, il y a une protection absolue à mettre en place vis-à-vis du harcelé et il y a vis-à-vis du harceleur un entretien vraiment très serré à avoir et il y a des méthodologies pour faire réfléchir l'enfant, jamais en le moralisant, en lui disant « mais enfin, tu te rends pas compte que… » etc. Ça ne sert à rien. Faire la morale ne sert à rien. Mais lui dire « tu as fait ça, c'est mauvais, c'est interdit, qu'est-ce qui fait que tu as fait ? Qu'est-ce qui s'est passé pour toi ?» De façon que le harceleur puisse aussi s'exprimer.
Prendre conscience de ce qu'il a fait, des douleurs qu'il a créées. Vous nous raconterez effectivement, Noémia, à un moment, comment la situation se retourne un peu. Hein. Vous allez nous raconter ça. Comment sortir de cette spirale ? Quelles sont les méthodes qui marchent en continu après Fada Freddy, qui chante « We sing in time ». Comment repérer et agir contre le harcèlement scolaire ? Est-ce qu'il y a un contexte propice pour le harceler ? Ça dépend aussi de sa réaction à l'attaque. Témoignage.
Je m'appelle Julie, j'ai 11 ans et je suis en 5e C.
Comment tu réagirais, toi, si jamais tu étais victime de harcèlement ?
On a déjà essayé de me harceler, mais je ne me suis pas laissée faire. Je me suis dit, bah, c'est bon, laissez-moi tranquille, je ne vous ai rien demandé, venez pas me voir, je m'en fiche de ce que vous pensez de moi. Ils ont arrêté. C'était en CM2. C'était des garçons, ils se moquaient de mes origines. Ils disaient « Ah oui, toi, tu fais du kung-fu, je sais pas quoi. » Ils disaient « Tu manges des sushis tous les jours. » Tous les clichés, ils disaient « Oui, tu manges du chien. » Enfin, n'importe quoi, quoi.
Parce que tu es de quelle origine ?
Je suis vietnamienne. Ils me traitaient de Shintok, de chinoise. Tous les prénoms qui venaient de l'Asie, de tous les pays. Mais au bout d'un moment, j'ai réussi à m'affirmer. Et puis après, bah, ils ont arrêté. Parce qu'au bout d'un moment, ça devient assez énervant. On n'a rien demandé, c'est pas comme si c'était de notre faute.
Et tu en as parlé à personne ? Parce que c'est des remarques racistes, en fait, ce qu'ils te disaient.
Non, j'en ai parlé en personne, parce que je me suis dit, bah, c'est bon. Enfin, voilà, ça a duré que quelques semaines. Si tu n'y arrives pas, le premier coup, si tu essayes de t'affirmer et que tu n'y arrives pas tout seul, bah, tu peux, par exemple, demander à des copines, puis ça ne marche pas. À un moment, il faut le dire aux adultes, à tes parents, aux professeurs, aux surveillants, à tout le monde, enfin, pour qu'on puisse au moins t'entendre. Parce qu'il y a des personnes, parfois, tu leur dis, puis après, ils t'écoutent pas, ils font « Oh, c'est pas grave, ça va passer », mais au final, ça passe pas.
Quelle réaction, effectivement, face à ces agressions? Marie-Jeanne Trouchot, vous êtes thérapeute, vous avez écrit « La violence à l'école » chez Erol. Nous sommes aussi avec Noémia Grouane, de « La rage dans mon cartable » chez Hachette Témoignages, et Géraldine Abar, donc, de l'association Les Parents. Vous êtes en ce moment concernée par le harcèlement scolaire de votre fille. Alors là, on la sent, cette petite jeune, on la sent quand même, elle est très affirmée, enfin, elle a un comportement. Est-ce qu'il y a un climat propice, effectivement, un profil du harcelé? Marie-Jeanne Trouchot.
Je ne dirais pas qu'il y a un profil du harcelé, parce que ce serait mettre la faute sur lui. Je dirais que souvent, les gens qui sont harcelés, ce sont des gens gentils, des gens tendres, et des gens qui, effectivement, n'ont pas de violence en eux. Cette petite fille, visiblement, elle est construite. Et elle a suffisamment confiance en elle pour, sans violence en retour et sans se laisser faire, se poser tranquillement et répondre sans être sur le même plan. Et je dirais que, effectivement, la construction antérieure de l'enfant, c'est pas que l'enfant naît faible. L'enfant a besoin d'être construit et que sa confiance en lui soit construite. Donc, un enfant qui n'est pas justement suffisamment étayé peut être plus facilement victime, mais c'est pas de sa faute.
Je comprends bien, c'est pas de sa faute, même si effectivement il est trop gentil et qu'il se tait un peu. C'est ce que vous avez fait. Vous avez fait le dos rond, Noémia Grouane.
Oui, encaissé, en fait.
Vous avez encaissé. Alors qu'à un moment, qu'est-ce qui fait que vous vous en êtes sorti? Par quoi c'est passé?
Alors très simplement, j'ai eu la chance, en quittant le collège et en passant au lycée, même s'il se trouvait dans la même ville, dans ma classe de seconde, j'ai pas retrouvé d'ancien élève du collège. Et là, on se rend compte là, de toute l'absurdité du harcèlement. C'est autant ça peut commencer comme ça dans un claquement de doigts, autant ça peut s'arrêter aussi sans aucune raison. Et donc, passé au lycée, j'ai plus jamais été confrontée à une situation de harcèlement.
Et alors, vous avez eu des échanges aussi après coup avec vos harceleuses qui vous ont vraiment libérée?
Oui, ouais. Ça a été une partie, effectivement, ces échanges, une partie aussi de, sans doute de ma reconstruction par la suite. Oui, j'ai eu l'occasion d'avoir des échanges sur Facebook avec une de mes anciennes harceleuses, une des meneuses par qui tout avait commencé en sixième. Et effectivement, et là, on retrouve bien la situation de projection qu'expliquait Marie-Jeanne Trouchot. C'est-à-dire qu'effectivement, elle m'a expliqué qu'à ce moment-là, elle venait de perdre son père. Et du coup, que toute cette souffrance, ce mal-être qu'elle avait intériorisé, bah, elle le projetait finalement sur les autres. Et donc, c'était tombé sur moi pendant cette année de sixième. Mais après, je ne l'avais pas du tout retrouvée dans les autres classes. Et sans doute qu'elle avait dû trouver d'autres victimes par la suite, quoi.
Sortir de la honte, hein. Vous avez reçu beaucoup de messages de soutien, parce que vous avez participé aussi à un film, vous avez décidé de témoigner, de sortir de cette spirale infernale.
Oui, tout à fait, sortir du silence. Voilà, j'ai gardé tellement de temps ce silence qu'aujourd'hui, effectivement, la prise de parole est devenue essentielle.
Libérer la parole, Géraldine Abar, vous êtes encore, on va dire, encore en plein dedans. Votre fille, elle a changé d'école, mais elle est encore fragile. Oui. On vous sent aussi, vous, encore assez fragile par rapport à cette situation, mais vous êtes entourée dans cette association. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut mettre en place? Quelles sont les méthodes qui marchent?
En tant que parent, en tant que parent, c'est déjà la première chose à faire. Si son enfant vient, a le courage de nous en parler, de briser le silence, c'est de le croire. Déjà, pour pas justement amplifier le phénomène et qu'il se replie encore plus sur lui-même.
Donc de ne pas sous-estimer ce qui est en train de lui arriver.
Ni sa souffrance, parce
reconnaître
qu'elle est
sa
réelle.
Souffrance, ouais.
C'est aller voir un médecin pour effectivement, en fonction de son état de santé, prendre les mesures qui s'imposent. C'est aller voir l'établissement pour les alerter. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, malheureusement, effectivement, on peut être amené à la déscolarisation. Après, moi, j'ai mis en place, je l'ai inscrite à la boxe. Voilà. C'était une manière pour elle de reprendre confiance en elle aussi.
De l'aider à trouver des moyens de défense.
Alors, pas tant des moyens de défense, mais déjà de se défouler, de sortir toute la colère qu'elle pouvait avoir en elle. Parce qu'effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, elle se sentait coupable et à la fois victime. C'était injuste et elle avait l'impression qu'on vous dit sans arrêt que vous valez rien et que vous ferez mieux d'aller vous pendre. On finit par le croire et qu'effectivement, on mérite ce qui nous arrive. Et donc, il fallait qu'elle sorte toute cette colère plutôt que de la ressortir contre elle, ce qui est arrivé après coup. Mais voilà. Donc, c'était plus pas lui donner des clés d'autodéfense, mais effectivement de sortir cette colère et de se rendre compte qu'elle pouvait avoir confiance en elle et qu'elle faisait des choses bien. D'où aussi, effectivement, la musique qui est devenue sa passion depuis l'enregistrement d'Aimer se soutenir, où elle est à fond dedans.
Et dans le nouveau établissement où elle se trouve, il y a donc des cercles de vie, des cercles de parole.
Alors, ils ont effectivement, le harcèlement scolaire est très pris au sérieux dans cet établissement. C'est déjà inscrit dans le règlement que tout harcèlement, quel qu'il soit, que ce soit des insultes, des menaces ou du racket, est sanctionné tout de suite. Et ils ont toutes les deux semaines une séance qui s'appelle de vie de classe, où ils vont échanger effectivement sur les problèmes de la classe ou des projets communs. Et bien, hier, en l'occurrence, effectivement, lors de la journée nationale contre le harcèlement scolaire, ils ont parlé du harcèlement scolaire.
Est-ce qu'il faut en parler dès le plus jeune âge, Marie-Jeanne Trouchot, même dans les petites classes en primaire? Est-ce qu'il faut aborder déjà le problème avant même que ça existe, expliquer ce qui peut se passer entre un harceleur, harcelé, expliquer aux enfants?
Je suis plus pour faire réfléchir les enfants et leur faire trouver eux-mêmes ce qui se passe, plutôt que d'expliquer. Quand les choses viennent de soi, on les intègre et on y croit. Quand les choses viennent d'ailleurs, ça rentre par une oreille, ça peut sortir par l'autre, ou ça n'entre même pas dans l'oreille.
Alors je veux qu'il y ait des méthodes, par exemple, de jeux de rôle, où on propose aux enfants de jouer tour à tour le harceleur, le harcelé, voir ce qu'ils répondraient, ce qu'ils feraient, de les mettre en situation.
Ça peut tout à fait exister, parce qu'effectivement, ils peuvent se retrouver dans la situation de ressentir ce qu'une phrase peut avoir comme conséquence. Et ça peut être intéressant.
Justement, qu'en est-il des autres enfants quand ils assistent à ces scènes-là? Parce qu'on n'en parle pas non plus, mais il y a des témoins actifs, des suiveurs, passifs. Comment mais faire circuler cette parole?
Justement, j'aimerais ajouter aussi qu'il y a vraiment quelque chose à ne pas dire à un enfant harcelé, c'est « débrouille-toi ». Je crois que c'est trop pour lui. S'il est harcelé, c'est qu'il n'a pas les moyens de faire autrement. Et que c'est important, absolument indispensable, qu'on l'aide. S'il demande et s'il manifeste quelque chose, effectivement que les adultes soient attentifs, hein, qu'ils vérifient. Madame disait à quel point elle n'a pas lâché le morceau pour aller jusqu'à comprendre exactement ce qui se passait pour sa fille à partir d'un comportement. Et puis qu'on aide l'enfant à trouver des solutions. Mais vraiment, moi, je suis pour la prévention, c'est-à-dire que plus on va organiser justement des débats philosophiques avec les enfants, comme la Fondation Sèvres, Savoir être et vivre ensemble, créée par Frédéric Lenoir et Martine Rossel Adams, est en train de le mettre en place. Vraiment, plus on va faire de la prévention, plus on va faire réfléchir les enfants plutôt que de leur faire la morale, mieux ça marchera.
Et le rôle des parents, des harceleurs par exemple, est-ce que vous avez été en contact avec eux à un moment, Géraldine Habart, à propos de votre fille?
Oui, on a appelé, quand je l'ai découvert, on a appelé la maman de ce qui était sa meilleure amie, qui est tombée des nues, qui nous a dit que ça ne servait à rien de s'énerver. Après, sur les quatre autres parents, là encore, on était face à un déni, à minimiser les faits. Et voire même pour certaines à continuer à faire de la provocation après, puisqu'on avait porté plainte et que forcément ça plaisait pas, ça leur plaisait pas, et voilà. Donc
vous avez trouvé de l'aide et du soutien au sein des associations, avec des gens qui avaient déjà vécu ça et qui ont pu vous
au sein de l'association, en organisant aussi, oui, au sein de l'association Les Parents, en organisant aussi, et ça c'était un moyen, alors l'objectif était double, c'était à la fois parce que face à ce déni, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait une méconnaissance du phénomène du harcèlement scolaire dans ma commune, donc j'ai organisé une conférence à laquelle Noémia était présente, avec Nora Fraisse également, pour sensibiliser et informer. Et c'était aussi pour, quelque part, puisqu'il n'y avait eu aucune suite aux plaintes qu'on avait déposées, aucune suite au niveau de l'établissement, une manière de rendre justice à ma fille et lui dire « Oui, ma puce, tu as été victime de harcèlement scolaire et non, ce qui t'est arrivé n'est pas normal. »
Vous diriez que votre fille, elle est tirée d'affaire aujourd'hui ?
Je ne le dirai pas encore aujourd'hui. Elle est sur la bonne voie, mais la route est encore longue.
Et vous, Noémia, alors vous avez écrit ce livre, hein, De la rage dans mon cartable, vous témoignez beaucoup. Les conséquences de ce harcèlement, ça dure longtemps ?
Très longtemps. Enfin, en ce qui me concerne, je pense que ça a bien duré quand même 10 ans, enfin, quasiment 10 ans après la fin du harcèlement, par des dépressions qui se sont répétées, par une incapacité totale à me projeter dans l'avenir, par un très grand manque de confiance en moi qui faisait qu'à chaque fois que je commençais justement une nouvelle formation, parce que j'ai quand même réussi à obtenir mon baccalauréat scientifique, mais ça n'a pas résolu la question de, à un moment donné, j'ai plus confiance en moi et je me bloque. Donc ça a été tout un tas de dépressions et d'échecs dans le cursus professionnel qui font qu'à un moment donné, voilà, je me suis retrouvée plus bactère et que finalement, toucher le sol m'a permis de rebondir. On parle de résilience. Enfin, vraiment, moi, c'est ce que j'ai vécu à un moment donné.
Et aujourd'hui, c'est votre métier, qu'est-ce que vous faites ?
Voilà, donc aujourd'hui, depuis que j'ai créé l'association Génération Solidaire, c'est devenu quasiment une activité à temps plein puisque je suis sollicitée vraiment par de nombreux établissements dans la France entière. Donc je me déplace en fonction des sollicitations des établissements, avec vraiment la volonté de passer des messages auprès des jeunes. J'interviens aussi auprès des parents, je fais des conférences auprès des parents, auprès des professionnels. On a dit que c'était important aussi de sensibiliser les professionnels. J'en ai fait aussi un combat personnel voilà, à ce niveau-là. Donc c'est vraiment... voilà, l'idée, c'est vraiment de développer les actions de l'association et de contribuer à briser le silence et à ne pas accepter des situations qui sont totalement inacceptables.
Marie-Jeanne Trouchot, pour terminer, donc effectivement, votre livre « La violence à l'école », la déceler, comprendre les souffrances de l'enfant pour mieux le protéger. Il faut effectivement plus former, ce que j'entends, le personnel des établissements scolaires hein, pour pouvoir attaquer, prendre le morceau,
le problème à bras-le-corps. Il faut vraiment en parler beaucoup pour que, justement, le personnel sache réagir, pour que les parents... aussi, qui sont souvent aussi démunis, qui quelquefois, enfin moi, les adultes sont souvent très démunis face à ça. Et c'est d'autant plus important que moi, je reçois dans mon cabinet des personnes qui, 20 ans, 30 ans, 40 ans après, ont encore des blessures terribles.
Merci
à
beaucoup.
La violence.
Mais merci hein, pour vos témoignages. Merci d'avoir été avec nous en direct à Noémia Groin. Donc vous publiez De la rage dans mon cartable chez Hachette et l'association donc Génération Solidaire. On aura toutes vos associations hein, sur le site internet. Marie-Jeanne Trouchot et Géraldine Abar, secrétaire de l'association Les Parents et membre du collectif You Are Heroes. Merci à toute la fine équipe toute la semaine. Éléonore Kranik, Camille Néron et Romain Dubrac pour la réalisation. Passez un très bon week-end et lundi vous retrouverez Emmanuel Bastide avec un grand plaisir autour de l'argent, source de conflits dans le couple et la famille. Très bon week-end.